rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
C'est l'heure du rendez-vous culture des bibliothèques. Aujourd'hui, Amy, Aurore, Frédéric et moi-même vous livrons nos derniers coups de cœur pour vous donner des idées de lecture. Et pourquoi pas quelques idées pour Noël. Un livre est toujours une bonne idée de cadeau. On va commencer avec Homecoming de Kate Morton. Ensuite, Ce que je sais de toi, Eric Chacour. Le roman aussi Par-delà l'attente de Julia Minkowski. Et un essai, Le cœur sur la table de Victoire Thuaillon. Nous poursuivrons avec un récit de voyage, L'usure d'un monde de François-Henri Désérable. Et un roman, Mon frère chasse les dinosaures de Giacomo Mazzariol. Ensuite, la littérature anglaise, Shrines of Getty, Kate Atkinson. Et un dernier roman, Il faut toujours envisager la débâcle de Laurent Riveleg. Un beau programme. Et tout d'abord, on commence avec Amy, Homecoming de Kate Morton.
Alors effectivement, moi je vais vous faire voyager exclusivement alors aujourd'hui en Angleterre. Et là, je vous fais voyager en 1959. Et avec ce roman en fait anglo-saxon qui s'ouvre sur Adelaide Hills à la veille de Noël 1959. Et donc, on est à la fin d'une journée assez chaude, au bord d'un ruisseau, dans le parc d'une grande et mystérieuse maison. Et c'est là qu'un livreur local fait une terrible découverte. Alors, s'ensuit une enquête policière qui est aussi, en fait, une affaire de meurtre, parmi les plus choquantes et les plus déroutantes. Donc là, on se situe principalement en Australie du Sud. Et 60 ans plus tard, Jess, qui est une journaliste en recherche d'une histoire, et après avoir vécu et travaillé à Londres pendant 20 ans, se retrouve licenciée et elle reçoit un appel de l'hôpital. Et elle apprend que sa grand-mère, Nora, qui l'avait élevée, qui représente vraiment une figure vraiment féminine et aussi maternelle d'une certaine façon, très importante dans sa vie, a fait une chute dans l'escalier qui l'a menée au grenier de sa maison et elle se retrouve complètement inconsciente à l'hôpital. Alors ce grenier, dans l'histoire, en fait, c'est le lieu où Jess n'avait absolument pas le droit de jouer quand elle était petite. Et Jess, elle va se rendre donc, chez sa grand-mère pour en savoir plus. Et c'est là qu'elle découvre, chez Nora, un livre qui décrit l'enquête policière sur la tragédie de 1959. Donc ça va l'intriguer et elle découvre en effet un lien, alors je vous en dis pas plus, mais entre sa famille et le crime de 1959, crime non résolu jusqu'à présent. En sachant qu'apparemment, Kate Morton, en tout cas, s'était inspirée d'un fait réel. Et pour Jess, cette affaire classée va être une aubaine et aussi une opportunité de guérir en découvrant la vérité sur sa famille. Donc je passe la parole à Anne.
D'accord, merci Amy. Alors, moi, pour tout vous dire, parmi les romans de cette rentrée littéraire d'automne, j'ai eu trois gros coups de cœur. Le premier, c'est avec Triste Tigre de Neige Sino. Mais il a obtenu le prix Femina, donc vous en avez entendu parler. Et le second est Pour veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea, mais il a gagné le prix Goncourt la semaine dernière, donc vous en avez beaucoup entendu parler. Mais mon troisième est moins connu, et pourtant aussi bien que les deux autres. C'est pourquoi je suis ravie de vous le présenter. Il s'agit de Ce que je sais de toi, d'Éric Chacour. C'est son premier roman, c'est un écrivain canadien d'origine égyptienne. Et Éric Chacour, là, il nous emmène du Caire à Montréal pour suivre la destinée de Tarek, un jeune médecin qui a suivi les pas de son père en reprenant son cabinet médical. Sa vie et sa condition sociale sont ainsi toutes tracées. Il doit se conformer aux attentes de ses parents, vivre paisiblement avec son épouse et auprès de sa sœur et de sa mère. Mais il trouve l'échappatoire dont il rêvait quand il décide d'ouvrir un dispensaire dans un quartier défavorisé du Caire pour y soigner les plus démunis. Et d'autant qu'à cet endroit, il fera une rencontre qui va chambouler toute sa vie. Éric Chacour dresse le portrait d'un être déchiré dans une société où chacun étouffe sous le poids des interdits et des injonctions. La loyauté familiale, la place que la société nous assigne sans possibilité d'en sortir. Et Tarek va essayer de s'extirper de ses carcans et trouver un peu de liberté. Le Caire est décrit d'une façon remarquable. On y respire son odeur, on en ressent le bouillonnement et la violence. C'est un vrai dépaysement. Mais si ce roman est si magnifique, c'est surtout grâce à l'écriture. Elle est pleine de délicatesse, de sensualité. C'est une écriture sensible et précise, et tout en retenue, qui résume parfaitement l'atmosphère des non-dits et la complexité des personnages. Ainsi, grâce à sa construction particulièrement efficace, on a un jeu, un mystérieux narrateur, qui s'adresse à un tu sur un ton bienveillant. Et le tu, c'est Tarek, notre personnage principal. Ce dispositif donne une saveur intimiste et énigmatique au texte. C'est comme une lettre qui résonne comme un cri nécessaire. Il y a comme une urgence de l'écriture, qui est puissante et poignante. Et l'émotion grandit au fil de récits. C'est vraiment un énorme plaisir de lecture. On va se pencher maintenant sur l'affaire des sœurs Papin avec Frédéric.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Alors, dans Par-delà l'attente, Julia Mikowski retrace la défense de Maître Germaine Brière. Et elle défend pas n'importe quel accusé, mais les sœurs Papin, les deux bonnes qui ont tué leur patronne. Donc ça se passe en 1933. Alors l'attente, c'est l'attente du verdict. Et en même temps, ça évoque la féminisation de métiers jusque-là masculins. Et quelles difficultés sont affrontées les femmes. Sur son barreau, Maître Germaine Brière est la seule femme. Elle a dû s'imposer dans un monde d'hommes. Et en nous plongeant dans la psyché de sa consœur, figure oubliée de l'histoire, Maître Julia Minkowski déploie avec maestria sa plume de romancière dans un premier texte puissant et vibrant. Je passe la parole à Aurore.
Oui, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler d'un essai qui s'appelle « Le cœur sur la table ». Alors, je ne sais pas si vous êtes adepte de podcast. Moi, perso, j'aime bien, mais comme pour beaucoup de choses, j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer, même s'il y en a plein que j'aimerais écouter plus régulièrement. Enfin bref, aujourd'hui, je voudrais mettre en lumière la podcasteuse Victoire Tuaillon, qui est connue pour son podcast féministe « Les couilles sur la table ». Et oui, vous avez bien entendu. Elle aborde des sujets très très variés autour de la place de la femme, des comportements, et ce à différents niveaux. Et à chaque fois dans ses podcasts, elle a interviewé des invités assez prestigieux, des chercheurs, bref, des gens qui savent en général de quoi ils parlent. Et elle creuse des points toujours un peu sensibles, mais avec beaucoup de respect et avec aussi une certaine naïveté, je trouve, qui fait du bien et qui est assez inclusive, du coup, pour nous, qui écoutons son podcast. Et se trouve du coup que Victoire Tuaillon a aussi écrit un livre, un bon pavé même, qui s'intitule lui « Le cœur sur la table ». C'est une sorte de documentaire, un essai sur la place des relations dans une vie. Alors bien sûr, il y a les relations amoureuses, mais il y a aussi les relations au travail, les amitiés. Comment se construit-on avec ceux qui nous entourent ? Quelle place leur donner ? Comment peut-on sortir du cadre sans briser le lien social ? Autant de questions auxquelles Victoire Tuaillon sur lesquelles elle se penche. Donc ce livre est bien sûr l'adaptation d'une série de podcasts qu'elle a fait, mais elle creuse encore plus loin son sujet. Elle parle de révolution romantique. Voilà, quels sont les nouveaux modèles des relations affectives aujourd'hui et pour l'avenir, pour un amour plus profond et aussi plus égalitaire. Je la cite, « À la fin de notre vie, ce qui nous aura rendu le plus heureuse, c'est d'avoir eu des relations riches et profondes avec les autres. Alors ma question c'est, comment fait-on ? » Voilà, tout est dit, je vous le conseille, c'est une mine d'or pour voir nos relations sous un prisme différent, pour ouvrir nos chakras au monde et aux autres, en toute bienveillance et bien sûr avec beaucoup d'amour.
Pour notre pause musicale, nous allons écouter Grand Corps Malade. Avec un extrait de son dernier album, Reflet, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est son 8e album. Et dedans, il manie aussi, toujours aussi bien la plume, avec plein de phrases punchy et rythmées. Et dans cette chanson, c'est aujourd'hui que ça se passe, il célèbre une urgence de vivre et attire l'attention sur la crise climatique.
Oh, Au quotidien, je me prétends plutôt tranquille et patient. Je crie pas, je marche doucement, je suis docile et pas chiant. On peut très facilement m'accuser de nonchalance. Pourtant, sur certains points, j'ai bien senti l'urgence. L'urgence de choisir mes envies, l'envie de choisir mes urgences. Choisir mes combats, mes refus, mes évidences. Choisir pour mieux agir et ne plus procrastiner. Pour vivre l'instant, j'ai fait des progrès stylés. Demain, c'est loin et c'est pas moi qui l'ai dit. Le présent est précieux, l'inertie l'enlaidit. Si l'espoir se permet, quand l'élan se transmet, honnêtement, faut y aller, c'est maintenant ou jamais. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Est-ce que c'est pas plus subversif d'arrêter de se plaindre, d'arrêter de se craindre, d'accepter de se joindre? Puisque la vie est un jeu plutôt interactif, essayons tous ensemble d'en faire un terrain de kiff. C'est dès aujourd'hui qu'on peut changer les choses, qu'on peut scander nos causes, qu'on ose et qu'on propose. Il y a quelques sujets qui ne peuvent plus attendre, on a tous un rôle à jouer et quelques comptes à rendre. Le climat, le partage, solidaire, être heureux. Soyons à la hauteur, ce n'est pas surhumain de remettre à aujourd'hui ce qu'on pensait faire demain. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que ça se passe. Pour que nos actes se reflètent dans un futur apaisant. Avec ma DeLorean, c'est retour vers le présent. Y a pas beaucoup de temps, mais y a encore de l'espace pour deux, trois trucs importants. C'est aujourd'hui que ça se passe.
Au rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un récit de voyage, L'usure d'un monde, de François-Henri Désérable. Je vous avais déjà parlé de cet auteur qui avait écrit Mon maître et mon vainqueur il y a 2 ans, un roman absolument brillant que j'avais adoré. Donc là, dans L'usure d'un monde, il suit les pas de Nicolas Bouvier, cet écrivain voyageur qui avait publié en 1963 le livre culte de la littérature de voyage, L'usure du monde. L'usage du monde, pardon, justement. Suite à son périple commencé en juin 1953 avec un ami en Fiat Topolino pendant 1 an et demi, où ils avaient parcouru plusieurs pays de la Yougoslavie à l'Afghanistan. Et Désérable, ici, donc, il a passé 40 jours, lui, en Iran, fin 2022, avant d'être expulsé par les gardiens de la Révolution. Il y est allé, malgré l'injonction formelle du Quai d'Orsay d'y renoncer, car le pays était sous tension, au plus fort de la répression contre les manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, qui avait été arrêtée pour port de vêtements inappropriés. Et François-Henri Désérable, il en tire un récit vibrant, empli d'empathie pour les Iraniens, il a rencontré des gens dont le courage l'a ému et impressionné. Il en dresse des portraits fugaces, mémorables. Il nous offre une galerie foisonnante de personnages touchants. Il a croisé des résistants qui apprennent par cœur des poèmes pour survivre en prison et inversement, des agents infiltrés du régime. Car en Iran, la surveillance est omniprésente. Il s'interroge ainsi sur la peur et le courage. Et il constate, avec espoir, que dans ce pays, la colère l'emporte sur la peur. C'est un peuple qui se méfie de ses dirigeants. L'usure du monde, du titre, c'est l'usure de la République islamique, de ce régime répressif des mollahs. Et tout en rendant hommage à la culture raffinée du pays, en mettant l'accent sur ses richesses, il affirme que le but de son voyage n'est pas tant de s'émerveiller d'autres lieux que d'en revenir avec des yeux différents. Et il porte un regard tendre et lucide sur ce pays et ses habitants, avec une touche d'humour très présente. J'ai même souvent ri au fil de sa chronique, si intelligente et drôle. Tout ce qu'il écrit touche à l'essentiel, et sa plume est d'une apparente simplicité mais remplie de poésie et d'humanisme. Il a une acuité remarquable à saisir l'instant, capter et retranscrire une ambiance. C'est sensible, attachant, léger et profond à la fois, vraiment une lecture que je ne suis pas prête d'oublier et que je vous recommande absolument. Maintenant, on va passer à un roman. Mon frère chasse les dinosaures.
Alors, ce roman de Mazariol est assez intéressant. Mazariol est un romancier italien, né en 1997. Donc c'est un jeune auteur, mais qui a été best-seller en Italie. Il évoque la vie de son petit frère et la sienne, en commençant par l'annonce faite par les parents qu'il va avoir un petit frère, mais qu'il sera un peu spécial. Donc il demande qu'est-ce qu'il aura de spécial. Et il aura des pouvoirs spéciaux. Il en déduit qu'il aura des pouvoirs spéciaux. En fait, Giovanni, le petit frère, a le syndrome de Down. C'est une forme de trisomie. Alors, passé les premières déceptions, Giacomo Mazariol aura la satisfaction de que son frère, il aura du mal à accepter que son frère soit handicapé comme ça. Mais à l'adolescence, son regard va changer et ils vont plus se fraterniser qu'avant. Avec mon frère Charles et Dinosaure, Giacomo Mazariol a écrit un roman de formation dans lequel il n'a pas eu besoin d'inventer quoi que ce soit. Un livre qui étonne, émeut et fait réfléchir.
Le rendez-vous culture des bibliothèques de Compiègne.
Alors, moi, de mon côté, je vais vous emmener dans une atmosphère un petit peu plus gaie, justement avec la romancière Kate Atkinson et son roman Shrines of Gaiety. Alors, si vous aimez vraiment l'univers des années folles qui est dépeint dans le roman de Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald, il est très probable que vous vous délecterez de ce roman. Puisqu'ici, on est vraiment en 1926 à Londres. Et l'histoire tourne autour du personnage de Nellie Cocker, qui est fraîchement libérée de prison. Et elle se retrouve à Londres et elle retrouve sa place dans la société londonienne en tant que propriétaire de club UP. Alors, la petite anecdote, c'est qu'effectivement, l'auteur a voulu transposer la vie de Kate Merrick, qui a vraiment existé et qui est la reine des clubs de Soho de l'entre-deux-guerres. Alors, Nellie Cocker, elle est la matriarche d'une grande famille de 6 enfants, dont Niven, qui est l'aîné, et Ramsey, qui est un aspirant écrivain. Et ils souhaitent vraiment, l'un et l'autre, devenir à leur tour à la tête d'un empire noctambule. Et donc, à la fin de la guerre, le besoin de divertissement se fait vraiment ressentir très fortement. Et la pègre locale règne dans les clubs huppés de la capitale anglaise. Seulement voilà, le détective John Frobisher est intrigué par le retour de Nellie Cocker à Londres. Alors, il ne lui fait pas confiance et donc il recherche un informateur qu'il va trouver en Freda pour infiltrer le clan Cocker. Donc Freda, c'est une ado en fuite qui veut devenir danseuse et qui va se lier d'amitié avec une bibliothécaire, en l'occurrence Gwendolyn Kelling, dont tombera amoureux Niven. Et dans ce roman, la part belle est justement donnée aux figures féminines, comme souvent chez Miss Atkinson. Et ici, on n'est vraiment pas près d'oublier la terrible Nellie Cocker en mère de famille mafieuse intraitable, les 40 voleuses et surtout la lumineuse donc bibliothécaire Gwendolyn Kelling et la jeune Freda qui est si déterminée. Et donc c'est vraiment une histoire qui se lit comme une lettre d'amour à Londres pendant une période de résurgence et de décadence d'après-guerre des nuits londoniennes. Donc je vous laisserai déguster ce roman.
Moi je vais vous parler d'un dernier roman français. Il faut toujours envisager la débâcle de Laurent Rivelaigh. C'est un troisième roman que je me suis beaucoup amusée à lire grâce à son humour décalé. Le narrateur est journaliste. Il vit avec sa femme et leur jeune fils, Quand il perd son emploi, il a l'idée d'écrire un livre. Pourquoi pas un roman ? Ben oui, mais un livre sur quoi ? Alors il va chercher une idée, un sujet de roman, sur Internet. Et il tombe sur un forum qui s'intéresse à l'affaire du Grêlé, ce tueur en série et violeur de jeunes filles qui sévit dans les années 80-90. Et avec l'aide d'internautes, il va enquêter à la recherche de l'identité du Grêlé. Mais cette quête devient frénétique et elle commence à imprégner toute sa vie. Elle va le rendre dingue, obsessionnel, à tel point que sa femme, plus rationnelle, le quitte et qu'il va se découvrir un allié dans son enquête, qui ne sera autre que Xavier Dupont de Ligonnès. Je vous laisse savourer la suite, toujours un peu cocasse et loufoque, pleine d'autodérision. C'est très amusant. On passe d'un genre littéraire à l'autre, l'enquête policière, la comédie fantaisiste. Mais ce faisant, il interroge notre intérêt pour le sordide. Et le rapport pathologique aux faits divers du personnage est irrésistible. Et cette alliance de noirceur et de drôlerie, vraiment savoureuse. On suit les mésaventures de cet anti-héros, dont le talent d'enquêteur n'a d'égal que sa capacité à tout rater dans sa vie. Lisez ce livre et vous allez passer un très bon moment. Nous arrivons au terme de cette émission. Un petit rappel des titres. Donc, nous avons parlé de Homecoming de Kate Morton, Ce que je sais de toi d'Éric Chacour, Par-delà l'attente de Julia Minkowski, Le cœur sur la table de Victoire Thuaillon, L'usure d'un monde, François-Henri Désérable, Mon frère chasse les dinosaures de Giacomo Masariol, Shrines of Getty de Kate Atkinson. Et enfin, Il faut toujours envisager la débâcle de Laurent Rivelaigue. Nous nous retrouvons vendredi prochain, le 1er décembre, pour un rendez-vous série. Le samedi 2 décembre à 17h à la bibliothèque Saint-Corneille, vous pourrez assister à un café philo avec les petits socratiques. Tout ce que j'ai le droit de faire est-il juste ? Animé par Frédéric Lafarge. Notre prochain rendez-vous culture à la bibliothèque sera le 15 décembre à 18h. Et notre prochaine émission littéraire et cinéma, musique, sera le vendredi 22 décembre à 18h sur Graphite. Merci à Aurore, Amy et Frédéric. Et très bon week-end.